vous m'en direz tant ?
Parmi les marqueurs de l'épidémie de Covid-19 qui nous afflige en ce moment, il y a un taux d'incidence dont fort peu de personnes comprennent le sens. C'est l'occasion de parler du mot « incidence » dont l'histoire est intéressante. Tire la chevillette, la bobinette cherra. Cette formule a été rendue célèbre par le comte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, paru au XVIIe siècle. Son succès et la fascination qu'elle exerçait sur moi tient probablement à son aspect de formule magique. Il n'en est rien. En fait, c'est plutôt une leçon de vieux français. Elle décrit le fonctionnement d'une fermeture de porte de l'époque avec le fameux « cherra » qui n'est autre que le futur du verbe « choir » un peu plus rarement conjugué de nos jours. Malgré les apparences, cette chronique, qui pourrait s'appeler « Vous m'embaillez tant », ne sort pas de son sujet. Incidence appartient à la famille de Chouard, dont il partage l'origine latine. Au commencement, il y avait le verbe « cadérer », tomber. Je ne rêve pas que cette chronique soit un événement, mais cependant, elle tombe aujourd'hui. On est passé de la chute à l'événement avec plutôt l'idée d'imprévu. Un événement qui nous tombe dessus. Les Gaulois craignaient, paraît-il, que le ciel ne leur tombât sur la tête. Pour les Romains, ce qui leur tombe dessus ne semble pas grave du tout. Rapidement, le mot « incident » indique quelque chose de marginal, d'un intérêt mineur et que l'on peut oublier facilement. En grammaire, une incidente est une proposition annexe, une digression. En justice également, où le mot fait partie du jargon habituel pour désigner, dans une audience, une sorte de diversion qui ne sera pas retenue. La formule « l'incident est clos » ferme en quelque sorte la parenthèse sur des propos qui n'auront pas de conséquences. Curieusement, incidence et conséquence ont été employés indifféremment dès le début du XXe siècle. Tel événement ne sera pas sans incidence, disait-on. Il est vrai qu'un incident diplomatique, par exemple, peut avoir des conséquences graves. Il n'empêche que la construction même de ces deux mots ne tend pas à en faire des synonymes. Dans conséquence, formé avec le préfixe con, avec, il y a l'idée que les conséquences envisagées sont consubstantielles à l'événement lui-même et qu'elles sont donc plus ou moins prévisibles. Incidence indique au contraire quelque chose de tout à fait fortuit, extérieur à l'événement. Il semble que ce soit l'anglais, où le mot « incidence » n'a pas le même sens d'imprévisibilité et de faible importance, qui ait entraîné cette mode, à mon avis, déplorable. Bien après que la bobinette eût chu, libérant la porte pour le petit chaperon rouge, j'ai rencontré le mot « incidence » en physique. Mes trop sommaires études d'optique m'ont mis tout de même en présence de l'angle d'incidence d'un rayon lumineux sur une surface. On en déduisait, tant bien que mal, un angle de réflexion et un angle de réfraction. C'est Descartes qui a inventé cela. On retrouve un peu l'idée de tomber. Le rayon tombe sur une surface, même si parfois il peut tomber d'en bas, mais on est habitué à ce que la lumière vienne d'en haut. Le mot apparaît aussi en économie. Un impôt peut avoir des incidences sur d'autres personnes que celles qui sont a priori visées. L'idée serait alors d'une répercussion, d'un ricochet, en optique d'une réflexion. Mais en économie, l'anglais n'est jamais loin et ces incidences-là pourraient bien être tout simplement des conséquences. Et enfin, nous arrivons à l'épidémiologie où le concept d'incidence est utilisé pour mesurer l'ampleur d'une épidémie. Il s'agit de notre fameux taux d'incidence qui est un ratio, comme il se doit. La définition précise est un nombre de survenus de la maladie d'incidents, donc de santé caractéristiques, ramenés à un nombre donné de population pendant une durée donnée. En général, mais ce n'est pas une règle absolue. On indique le nombre d'incidences de la maladie pour 100 000 habitants et pour 7 jours. C'est un peu compliqué pour les médias, qui parfois parlent des 100 000 habitants, mais assez rarement des 7 jours. Et puis surtout, il faudrait définir avec précision ce que l'on entend par incidence de la maladie. Si on ne comptait que les malades plus ou moins gravement, mais au moins symptomatiques, on obtiendrait des chiffres très différents de ce que l'on nous donne en pâture et qui ne concerne finalement que les cas de positivité à l'agent pathogène. Ce taux d'incidence traduit aussi bien la virulence de l'épidémie que la détermination à effectuer des tests. Pour des maladies comme Ebola, qui tue presque toutes les personnes atteintes, le taux d'incidence est fort pertinent. Pour une maladie comme la Covid-19, qui n'est souvent qu'un simple incident pour les contaminés, mais dont on peut incidemment mourir, ce taux ne donne pas une idée très précise des risques encourus. Voici un petit calcul. Depuis qu'on s'intéresse à la Covid, disons chez nous mars 2020, on répertoriait, début octobre, 32 000 décès clairement attribués au virus. Nous sommes 67,1 millions d'habitants et il s'est écoulé depuis mars 30 semaines. Avec ces données, le taux d'incidence des décès liés au coronavirus serait à peine de 1,6. Selon la communication officielle, le taux national d'incidence de positivité serait lui de 180. Dès lors, on comprend que l'opinion française reste dubitative sur l'ampleur réelle du danger tel qu'il nous est servi par le gouvernement. Il y a une réelle difficulté à apprécier les conséquences de ces incidences-là. Il reste une donnée dont nous sommes privés. Le nombre de morts par rapport à la population est sans intérêt, puisque de toute façon tout le monde meurt. Plus parlant, en ne restant que sur le quantitatif, serait le nombre d'années de vie perdues. Je me souviens avoir fait cette remarque-là à propos des accidents de la route. On communiquait à tour de bras sur la réduction du nombre de morts par an sur les routes, 500 au moins, grâce à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les routes ordinaires. J'étais arrivé à la conclusion que la grosse seconde de vie collectivement gagnée se payerait en minutes derrière le volant, puisque cela s'accompagnerait pour tous d'un petit allongement des temps de trajet. Lorsqu'un jeune de 20 ans succombe à un accident de la route, il perd, et au fond l'humanité avec lui, une soixantaine d'années de vie. Lorsqu'un citoyen de 97 ans succombe au coronavirus, que perd-il? Que perd-on? Cette pandémie qui a le mauvais goût de tuer plutôt des personnes âgées que des jeunes semble fort peu démocratique. Au fond, les jeunes n'ont pas intérêt à se priver pour sauver quelques vieillards dont éventuellement ils pourraient hériter. Je sais, c'est cynique, mais on ne nous parle pas assez du lourd tribut que ces jeunes vont finalement payer à la maladie. Ils vont certes survivre très largement, mais dans une économie dégradée, avec des dettes étatiques à éponger sur des années. Et tout cela après que leur jeunesse, qui ne dure pas très longtemps, leur ait été confisquée par toutes les restrictions de liberté qu'on nous propose. Encore une fois, mes propos peuvent paraître totalement inhumains, mais cela résulte de ce que l'on fait des calculs avec la vie. Le temps de vie est une quantité, mais il a aussi une certaine qualité. On ne sait pas faire des calculs avec la qualité.